Installez-vous confortablement, c'est l'heure de C'est moi qui lis. Bonsoir à toutes et à tous, vous écoutez C'est moi qui lis, la chronique qui vous fait découvrir ou redécouvrir un livre unique et magnifique. Chaque lundi, mercredi et vendredi soir, je vous partagerai un livre qui m'a touchée, surprise, choquée. Je vous en dirai bien sûr un peu plus sur l'auteur ou l'autrice, sur le processus d'écriture du livre et je vous en lirai un passage. Ce soir, on découvre Schmitt, Eric Emmanuel Schmitt. Il est né le 28 mars 1960 et c'est le premier auteur contemporain que je vous propose dans cette chronique. Au lycée, il est lauréat du concours général, il fait une prépa littéraire, puis rentre à l'ENS pour y devenir agrégé de philosophie. Bon, on est sur un certain parcours, il faut le reconnaître. Et je ne vais pas vous citer tous les prix et récompenses qu'il a reçus, parce que ce serait assez long, mais je peux vous dire qu'il a été en 2000 chevalier de l'Ordre des Arts et des Lettres en France et a reçu en 2019 l'insigne de chevalier de l'Ordre National du Québec. La classe, non. Et il est devenu en 2016 jury de l'Académie Goncourt.
En revanche, pour faire partie des 40 immortels de l'Académie française, eh ben là, il faut se porter candidat. Est-ce que un jour, vous aurez cette coquetterie ?
Mais c'est trop tard, je suis à l'Académie Goncourt.
Ah !
Et figurez-vous que c'est, les gens ne le savent pas, c'est ou bien, ou bien.
Eh bien, j'ignorais que c'était ou bien, ou bien.
Exactement. Quand Bernard Pivot, qui est notre président de l'Académie Goncourt, et François Chardin Nagor m'ont appelé une après-midi, c'est pour me dire, voilà, on adorerait que vous nous rejoigniez à la table des 10. Vous seriez élu à l'unanimité, mais on sait aussi que l'Académie française vous souhaiterait. Donc, il faut choisir.
Et vous avez choisi.
Alors j'ai passé 2-3 heures à réfléchir, enfin je réfléchissais pas parce qu'en fait j'étais avec mon ami Pietra Gala et on jouait sur scène ensemble un texte de moi. Mais en sortant de scène, j'ai rappelé Bernard Pivot et François Chardin-Nagor et j'aurais dit écoutez, c'est plus agréable de déjeuner à 10 qu'à 40. Alors voilà, maintenant tous les mois, le premier mardi de chaque mois, nous nous retrouvons chez Drouhan, au restaurant Drouhan, et c'est passionnant. Nous lisons, nous essayons de découvrir les talents qui apparaissent, qui se confirment. C'est très altruiste comme activité.
Bon, il est également passionné d'opéra et a d'ailleurs réalisé un CD de ses compositions. Eric Emmanuel Schmitt a, dans ses livres comme dans sa vie personnelle, une relation forte à Dieu. Dans La Nuit de Feu, publié en 2015, il revient sur une expérience vécue dans le désert du Hogar en 1989 et répond à la question « Est-ce que Dieu existe ?» en disant qu'il ne sait pas, mais qu'il pense qu'en effet, il existe.
Mais vous êtes totalement fasciné par votre guide,
ouais.
Qui est un Touareg.
C'est un vrai coup de foudre. Quand je vois ce guide Touareg, cet homme bleu, son allure, sa silhouette, son aspect racé, je dis, j'éprouve un vrai coup de foudre, qui n'est pas un coup de foudre d'amour ou d'amitié, mais un coup de foudre pour la civilisation qu'il incarne. Mmh. C'est-à-dire un homme qui est capable de vivre dans un lieu aussi hostile que le désert, dans un dénuement matériel absolu, et qui rit toute la journée, qui a toujours des histoires à raconter alors qu'il ne rencontre personne. Mmh. Voilà, je trouve ça admirable. Je me dis, il a compris quelque chose que moi, je n'ai pas compris. Mmh. Donc, il n'est pas seulement mon guide à pied dans le désert, il est déjà un guide spirituel qui m'amène dans un lieu différent où je vais perdre mes réflexes.
Et vous allez vous perdre tout court.
Je vais me perdre tout court.
En croyant connaître le bon chemin, vous vous perdez. Et là, vous allez donc passer cette nuit, cette fameuse nuit de feu, où vous allez rencontrer Dieu.
Le résumé est toujours un peu effrayant.
Oui.
Mais... C'est pour ça que j'ai pris la peine d'écrire
Bien
le livre.
Sûr.
En tant qu'auteur francophone, il est un des plus lus, mais également des plus représentés. Ses livres ont été traduits dans 46 langues et joués dans plus de 50 pays. Alors, j'ai personnellement connu les œuvres de Schmitt assez tôt, car à l'école primaire, une troupe de théâtre nous avait joué Oscar et la Dame Rose. Petit résumé pour ceux et celles qui ne connaissent pas, Oscar est un petit garçon de 10 ans qui est hospitalisé à la suite de son cancer et rencontre Mamie Rose, la plus ancienne des Blues Roses. C'est d'ailleurs la seule qui accepte de parler du mot mort. Et il écrit ainsi des lettres à Dieu pour lui raconter ses jours à l'hôpital. Si vous ne connaissez pas, je vous invite fortement à lire cette pièce parce que ce n'est pas d'Oscar et d'Adam Rose que l'on va parler ce soir, mais des variations énigmatiques. Si le nom vous dit quelque chose, c'est normal, car ce titre est en lien avec les variations Enigma, composées par Edward Elgar. Elles portent ainsi toutes les initiales des personnes concernées. Alors je vous reparle du livre de Schmitt, juste après la variation RPA, composée par Edward Elgar.
«
Vous écoutez toujours C'est moi qui lis sur le 101.fm. C'était la composition d'Edward Elgar, la variation numéro 5 RPA. RPA pour Richard Penrose Arnold, pianiste amateur, fils du poète Matthew Arnold. Qui aime-t-on quand on aime? Sait-on jamais qui est l'être aimé? L'amour partagé n'est-il qu'un heureux malentendu? L'écrivain et prix Nobel de littérature Abel Snorko vit seul sur une île en Norvège. Erik Larsen, journaliste venu l'interviewer, se fait accueillir à coups de feu. La rencontre tourne très rapidement autour de la fameuse personne à qui le livre est dédicacé, H.M. Serait-ce une femme? Qui est-elle pour Snorko? Pourquoi un écrivain si solitaire accepterait-il la venue d'un journaliste chez lui? Les variations énigmatiques, page 48. Snorko revient dans la pièce, pensif. Il regarde autour de lui, hésitant. Il réfléchit. Puis il sort par la porte intérieure. La musique continue. Quelques secondes encore plus tard, on entend de nouveau deux coups de feu, puis de nouveau la cavalcade au dehors. Larsen rentre, essoufflé, mais cette fois plus furieux qu'effrayé. Calmement, souverainement, Snorko apparaît. « Mais vous êtes fou, complètement fou! Les balles sont passées à quelques centimètres de moi! » Qu'est-ce que vous en concluez? Que je tire bien ou que je tire mal? Larsen lance rageusement ses affaires à terre. Qu'attendez-vous de moi exactement? Vos impressions? Cela fait quel effet d'être pris pour un lapin? Que voulez-vous? Mais dites-le, qu'on en finisse! Asseyez-vous, vous boirez bien quelque chose. Un godet, un petit godet. Rien de tel qu'un petit godet pour déglutir la glotte. Ah, ne jouez pas les hospitaliers, c'est trop! Quand on décharge son fusil sur quelqu'un, on ne lui propose pas un verre 30 secondes plus tard. Snorko se verse un verre à lui-même. Quand il va le porter à ses lèvres, Larsen, furieux, le lui arrache et le boit d'un trait. Snorko s'en sert calmement un autre. Cela vous était tellement facile de refuser notre entretien, comme vous l'avez fait avec tous mes confrères. Non seulement vous m'avez reçu, mais maintenant vous m'empêchez de partir. Qu'est-ce que vous attendez de moi? Ils se regardent. Et vous, qu'est-ce que vous voulez? Comment savez-vous ce que je fais de mon argent? J'ai exigé le secret. Une enquête. Vous donnez des sommes énormes aux unités de recherche sur les plus graves maladies. N'importe qui se vanterait haut et fort d'en offrir le dixième. Pourquoi le passer sous silence? Je ne donne pas par bonté, je donne par peur. » Changeant rapidement de sujet, Snorko hausse les épaules. Il prend le magnétophone dans la sacoche de Larsen et le lui montre. « Que faites-vous ici? Vous êtes le premier journaliste à réussir à faire marcher un magnétophone sans prise ni pile. »« Vous ne l'aviez pas remarqué, peut-être? Lorsque je vous l'ai demandé, vous m'avez assuré que la bande tournait. »« Si, mais il est tombé en panne pendant le voyage. De toute façon, ces appareils sont inutiles. » Je faisais semblant, ma mémoire suffit. Ah oui ? Larsen s'assoit. Il fixe le visage de Snorko. Il le défie. Je reste. Il y a quelque chose qui m'amuse chez les menteurs. C'est qu'ils ne peuvent s'empêcher de dire la vérité. J'attends mon heure. Vous avez des provisions de bouche ? J'attends. Quoi ? Et vous ? Il se toise. Snorko conclut légèrement. Qu'est-ce qu'un homme attend d'un autre homme ? C'est parce qu'ils ne le savent pas que les hommes continuent à se fréquenter. Que voulez-vous? Et vous? Terrible impasse. Ils sont deux et aucun ne parlera le premier. Il leur resserre à boire. Un temps. En attendant, parlez-moi de vous. Je ne vois pas ce que je pourrais avoir envie de vous dire. Vous êtes marié ? Larsen ne répond pas. Oui, naturellement. Vous êtes marié et amoureux de votre femme. Enfin, vous le croyez. Qu'est-ce qui vous fait dire cela ? Il émane de vous un fumet d'intense platitude. Cela sent la charentaise, le pot-au-feu, le mégot propre, le gazon coupé et la lavande dans les draps. Je ne vous vois pas risquer d'avoir un bonheur différent des autres. Tout est dans la norme et le morne. » Il se met à rire. « Je suis ridicule à vos yeux ?»« Pire, ordinaire. Vous jugez l'humanité comme si vous vous teniez au-dessus d'elle. Je suis tyrannique, prétentieux, insupportable. Tout ce que vous voulez, mais pas ordinaire, non. » Effectivement, c'est curieux cette manière de retenir les gens pour les accabler. Qu'est-ce que cela cache ? Bonne question. Allons, vous me parlez avec haine. Pourquoi ? D'où vient cette haine ? La haine n'a jamais la haine pour origine. Elle exprime autre chose. La souffrance, la frustration, la jalousie, l'angoisse. Philosophe, décidément, nous n'échapperons à aucune banalité. L'amour, parlons-nous de l'amour, mais la haine parle toujours pour quelque chose d'autre. De quoi souffrez-vous ? C'est émouvant, ces trésors de compassion. Vous ne pouvez pas vous intéresser aux autres autrement qu'en infirmière ? Non, je ne peux pas. Quand je regarde un homme, je vois quelqu'un qui va mourir. Morbide. C'est pour cela que j'ignore la colère, que je n'insulte pas, que je ne peux pas frapper. J'aperçois le squelette sous la chair. Eh bien, moi, je vais très bien, merci. Vraiment ? Vraiment, vous crevez tellement de solitude et d'ennui que vous exécutez un numéro de cirque pour retenir le premier venu. Mais vous n'êtes pas tout à fait le premier venu. Ah bon ? Pourquoi ? Il serait temps de m'expliquer. Snorko hésite, puis finalement s'assoit. Alors, je vais devoir faire attention à ne pas vous spoiler. Accrochez-vous, ce livre est plein de surprises. Et c'est vraiment ce que j'ai adoré. Plus je lisais, plus j'étais surprise. Et ce qui s'apparentait au premier abord comme une simple pièce de théâtre pour moi, s'est transformé en un huis clos plein de rebondissements. Ce livre possède une formidable progression dans l'écriture et dans les... Et surtout, le lien avec le livre de Schmitt et les œuvres symphoniques d'Edward Elgar est vraiment intelligent et très bien mené. Lire une pièce de théâtre peut sembler un petit peu étrange et peut-être moins accessible, mais je vous conseille vraiment de dépasser ce préjugé, car les variations énigmatiques nous plongent en quelques phrases dans un dialogue vraiment passionnant, qui semble au premier abord absurde, puis tout simplement magistral. Petit fun fact, Eric Emmanuel Schmitt a en 2016 commenté les épreuves d'athlétisme des JO de Rio avec notamment Nelson Montfort. En même temps, entre un père champion de boxe française et une mère championne de course à pied, il n'a pas dû se sentir trop déboussolé. Merci à tous et à toutes de m'avoir écouté. C'était Marion avec la chronique C'est moi qui lis. On se retrouve lundi pour un épisode sur André Chédid, toujours sur le 101.1 FM à Brest. Et en attendant, amusez-vous bien.